1 Samuel 12, verset 1. Samuel dit à tout Israël, « Voici, j'ai écouté votre voix dans tout ce que vous m'avez dit, et j'ai établi un roi sur vous. Et maintenant, voici le roi qui marchera devant vous. Pour moi, je suis vieux. J'ai blanchi et mes fils sont avec vous. J'ai marché à votre tête depuis ma jeunesse jusqu'à ce jour. Me voici. Rendez témoignage contre moi, en présence de l'Éternel et en présence de son oint. De qui ai-je pris le bœuf et de qui ai-je pris l'âne? Qui ai-je opprimé et qui ai-je traité durement? De qui ai-je rendu un présent pour fermer les yeux sur lui? Je vous le rendrai. » Ils répondirent, « Tu ne nous as point opprimés et tu ne nous as point traités durement, et tu n'as rien reçu de la main de personne. » Il leur dit encore, « L'Éternel est témoin contre vous, et son oint est témoin en ce jour que vous n'avez rien trouvé dans mes mains. » Et ils répondirent, « Nous en sommes témoins. » Alors Samuel dit au peuple, « C'est l'Éternel qui a établi Moïse et Aaron et qui a fait monter vos pères du pays d'Égypte. Maintenant présentez-vous et je vous jugerai devant l'Éternel sur tous les bienfaits que l'Éternel vous a accordés à vous et à vos pères. Après que Jacob fut venu en Égypte, vos pères crièrent à l'Éternel, et l'Éternel envoya Moïse et Aaron, qui firent sortir vos pères d'Égypte et les firent habiter dans ce lieu. Mais ils oublièrent l'Éternel, leur Dieu, et il les vendit entre les mains de Sisera, chef de l'armée de Hatsor, entre les mains des Philistins et entre les mains du roi de Moab, qui leur firent la guerre. » Ils crièrent encore à l'Éternel et dirent, « Nous avons péché, car nous avons abandonné l'Éternel, et nous avons servi les Baals et les Astartés. Délivre-nous maintenant de la main de nos ennemis, et nous te servirons. » Et l'Éternel envoya Jérubal, Bédan, Jephté et Samuel, et il vous délivra de la main de vos ennemis qui vous entouraient, et vous demeurâtes en sécurité. Puis, voyant que Nachash, roi des fils d'Ammon, marchez contre vous, vous m'avez dit, non, mais un roi régnera sur nous, et cependant l'Éternel, votre Dieu, était votre roi. Mais donc le roi que vous avez choisi, que vous avez demandé, voici, l'Éternel a mis sur vous un roi. Si vous craignez l'Éternel, si vous le servez, si vous obéissez à sa voix, et si vous n'êtes point rebelle à la parole de l'Éternel, vous vous attacherez à l'Éternel, votre Dieu, vous et le roi qui règne sur vous. Mais si vous n'obéissez pas à la voix de l'Éternel, et si vous êtes rebelle à la parole de l'Éternel, la main de l'Éternel sera contre vous, comme elle a été contre vos pères. Attendez encore ici, et voyez le prodige que l'Éternel va opérer sous vos yeux. Ne sommes-nous pas à la maison des blés? J'invoquerai l'Éternel, et il enverra du tonnerre et de la pluie. Sachez alors, et voyez combien vous avez eu tort aux yeux de l'Éternel de demander pour vous un roi. Samuel invoqua l'Éternel, et l'Éternel envoya ce même jour du tonnerre et de la pluie. Tout le peuple eut une grande crainte de l'Éternel et de Samuel. Et tout le peuple dit à Samuel, « Prie l'Éternel ton Dieu pour tes serviteurs, afin que nous ne mourions pas, car nous avons ajouté à tous nos péchés le tort de demander pour nous un roi. » Samuel dit au peuple, « N'ayez point de crainte, vous avez fait tout ce mal, mais ne vous détournez pas de l'Éternel et servez l'Éternel de tout votre cœur. Ne vous en détournez pas, sinon vous iriez après des choses de néant qui n'apportent ni profit ni délivrance, parce que ce sont des choses de néant. L'Éternel n'abandonnera point son peuple à cause de son grand nom, car l'Éternel a résolu de faire de vous son peuple. Loin de moi aussi de pécher contre l'Éternel, de cesser de prier pour vous. Je vous enseignerai le bon et le droit chemin. Craignez seulement l'Éternel et servez-le fidèlement de tout votre cœur, car voyez quelle puissance il déploie parmi vous. Mais si vous faites le mal, vous périrez, vous et votre roi. »
Merci Seigneur pour ta parole. Merci de ce que tu es un Dieu qui parle, qui se révèle. Nous voulons te demander ce matin, Seigneur, de nous aider à t'écouter, adoucir nos cœurs pour que nous soyons prêt à accepter ce que tu as à dire. Et aide-moi aussi ce matin d'être fidèle à ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Alors, comment on va voir, lorsqu'on fait une grande randonnée, un sac à dos peut faire très lourd. Alors, j'appuie sur le bouton. Voilà. Voilà notre ami Steven qui s'apprête à faire la crête des Vosges. Son sac à dos ne lui pose aucun problème. Mais après quelques heures, après quelques jours de marche, qu'est-ce qui se passe? On a l'impression que le sac à dos est rempli jusqu'à craquer de cailloux très très lourds. Il pèse une tonne. Alors, et l'idée de le poser par terre devient un doux rêve. Voilà, ouais. Peut-être épargner Steven. Ils sont bien conscients du poids de nos faiblesses, de nos échecs, de nos fautes. Et l'Évangile explique qu'à la croix, Jésus a pris le poids de nos péchés, de nos faiblesses, de nos échecs, de nos fautes. Il a été chargé de nos fautes, de nos dettes. Il s'est écroulé sous le poids de nos iniquités pour que nous puissions en être déchargés, pour que nous puissions déposer à ses pieds nos sacs à dos chargés de cailloux, les cailloux de notre révolte quotidienne. Alors c'est une bonne nouvelle, l'Évangile est une bonne nouvelle qui nous libère, qui ressuscite, qui nous fait du bien. Il nous offre un pardon éternel, un pardon qui dure, et cette réconciliation dont nous avons parlé, la possibilité de connaître Dieu comme un bon Père céleste. Mais quelle doit être l'attitude du chrétien vis-à-vis de son péché, ce péché qui le guette tous les jours, ces manquements quotidiens, ces chutes de tous les jours? Alors nous ne réagissons pas tous de la même manière, nous réagissons différemment selon les circonstances. Parfois, nous nous écroulons sous le poids de nos échecs, nous avons du mal à croire que nous sommes retombés dans le même piège encore une fois, nous avons du mal à accepter le pardon de Dieu et à repartir. Mais parfois nous prenons un peu à la légère nos manquements. C'est la vie, n'est-ce pas, hein? Nous ne sommes que des humains, après tout. Ce n'est pas si grave que ça. Tu m'en fais ça de toute manière. C'est interdit, mais c'est toléré. Bon, on ne m'a pas fait tout un drame. Alors ce matin, ce texte du livre de 1 Samuel, venu parler de nos échecs, est venu parler de notre péché, est venu parler aussi de Dieu, de son caractère, de comment il voit sa perspective sur nos révoltes quotidiennes. Il va nous parler aussi de son Fils. Parce que Dieu veut nous montrer ce matin que notre péché est plus sérieux qu'on ne veut admettre, mais que Dieu est plus miséricordieux qu'on ne peut jamais imaginer. Donc d'abord, notre péché est très sérieux. Et ensuite, dans un deuxième temps, la grâce de Dieu est encore plus grande. Voilà, notre péché est très sérieux. Alors nous sommes à un grand moment dans l'histoire de la nation d'Israël. C'est un moment de changement constitutionnel. La nation d'Israël vient de se doter d'un roi, d'une nouvelle constitution. À ses yeux, Israël se modernise, hein? Le pays va ressembler à ces nations environnantes. Il va devenir comme eux, donc une nation performante, puissante. Il a maintenant un roi. Alors il y a deux semaines, nous nous sommes penchés sur le chapitre 11, qui raconte la première grande victoire de ce nouveau roi, Saül. Il a battu les Ammonites de Naash. Et tout semble aller pour le mieux dans le meilleur des mondes. Mais aujourd'hui, au chapitre 12, nous nous retrouvons au palais de justice, au tribunal de haute instance d'Israël. Et le procureur du royaume s'appelle Samuel le prophète. Il est, à tout point de vue, un avocat hors pair qui présente avec brio ses arguments. Son discours est limpide et sa logique est impeccable. Il veut que cette nation comprenne qu'elle n'a pas tout compris quant à sa relation avec Dieu. Selon Samuel, même si tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, il y a quelque chose de fondamental qui a été passé sous silence et qui est très important. Il veut que la nation comprenne le sérieux de son péché aux yeux de l'Éternel, aux yeux du Seigneur. Le verset 17 nous le montre très clairement. Vous avez très mal agi aux yeux du Seigneur. Donc le but de Samuel, ce qu'il veut faire par ce discours et aussi par ce passage, il veut les amener à une repentance sincère, à une foi renouvelée, un nouvel engagement devant le Seigneur. Au chapitre 8, on l'a vu peut-être il y a 4 semaines maintenant, le peuple avait demandé un roi et Samuel avait très mal pris. Il avait pris comme un rejet personnel, comme un rejet de son ministère, ce ministère que Dieu lui avait donné. Mais Dieu lui avait expliqué que, loin de rejeter Samuel, ce que le peuple était en train de faire, c'était de rejeter Dieu, rejeter son règne sur le peuple. Mais lorsque Samuel l'a dit au peuple, il a expliqué ce que le Seigneur lui a dit au peuple, le peuple a persisté et signé. Le peuple lui a dit, donc je cite chapitre 8, verset 19, « Tant pis, tant pis, il y aura un roi sur nous. Et nous aussi, nous serons comme toutes les nations. Notre roi sera notre juge. Il conduira nos armées et mènera nos guerres. » C'est vrai, ce peuple est têtu, hein, ce peuple est obstiné. Il y a un vrai refus de voir la réalité en face. Il s'aveugle. Il veut être comme tous les autres. Et c'est clair, il n'y avait pas de repentance. Et Samuel, ce prophète, est un bon leader. Et parce qu'il est un bon leader, il a à cœur ce peuple. Il sait que si ce peuple continue de cette manière, il va rentrer dans le mur. Et je pense qu'il y a peut-être un défi pour nous tous, un avertissement dans ce passage. Comme des enfants qui rejettent la culpabilité. Bah, c'est pas moi, c'est pas moi. Ou peut-être comme des adultes qui veulent ressembler à leurs amis, à leurs collègues, à leurs voisins. Nous pouvons choisir, nous aussi, d'être aveugles quant à notre manière de traiter Dieu. Nous pouvons présumer que ce que nous faisons, nos choix, c'est indifférent à Dieu. Alors, que dit Samuel? Alors, au verset 1 à 5, dans un premier temps, il dresse un bilan de son ministère. Ce qui est un peu bizarre, c'est que le procureur change de place avec l'accusé. Il permet à l'accusé de l'accuser. Verset 3. Je suis là, déposé contre moi devant le Seigneur et devant l'homme qui a reçu son onction. De qui ai-je pris le bœuf? De qui ai-je pris l'âne? De qui ai-je opprimé? Qui ai-je écrasé? De qui ai-je accepté un pot de vin pour fermer les yeux sur son cas? Dites-le-moi et je vous rendrai votre dû. Et le peuple doit admettre, le peuple est le roi. Il témoigne que Samuel a dispensé son ministère avec droiture, avec fidélité. Le prophète, le juge que Dieu a donné à son peuple, n'a pas failli à ses devoirs. Si le peuple est aveugle, si le peuple s'est entêté dans ses choix douteux, ce n'est pas la faute de Samuel. Hein. Lui, il est disculpé. La faute appartient à quelqu'un d'autre. Comme des grands frères qui apprennent très vite à blâmer le petit frère. C'est lui qui l'a fait. Nous aussi, nous pouvons être tentés de blâmer autrui, ou même nos circonstances. Ce n'est pas ma faute. Mais ce passage nous invite à sonder nos cœurs. Samuel anticipe un peu cette tentation. Il déblaye cette tentation. Avec brio, Samuel poursuit son accusation. Il leur rappelle leur histoire, et plus en important encore, l'histoire de Dieu, ce que Dieu a fait par le passé. Car la faute n'est pas celle de Dieu non plus. Il a nommé Moïse et Aaron, qui les a fait monter de l'Égypte. Dieu avait délivré ce peuple de l'esclavage. Si le peuple se trouve en terre promise, c'est grâce à la bonté du Seigneur. Et ensuite, Samuel leur rappelle ce que Dieu avait fait à l'époque des juges. Verset 9. Ils ont oublié le Seigneur, leur Dieu, qui les a vendus à Sisera, le chef de l'armée de Hatsor, aux Philistins et aux rois de Moab, qui leur ont fait la guerre. qu'un cycle qui semble se répéter. Le peuple oublie Dieu, il le met de côté. Ensuite, le Seigneur les livre à leurs ennemis. Et puis le peuple crie au Seigneur, il s'en repent. Et au final, Dieu est miséricordieux. Et il suscite un juge pour les sauver. On le voit au verset 11. Le Seigneur a envoyé Yerubbaal, donc ça c'était Gédéon, et puis Bedan, Jephté et Samuel. Samuel aussi, hein. On se souvient de l'histoire de la victoire sur les Philistins qu'on a vue il y a quelques semaines, quand le coffre de l'Alliance était perdu. C'est vrai que cet épisode aurait dû être un peu frais dans la mémoire des Israélites. Ils auraient dû se souvenir du fait que Dieu a été fidèle, Dieu a été patient avec eux. À chaque fois, Dieu venait au secours de son peuple. Mais voici le problème. Cette fois-ci, cette dernière fois, le peuple n'a pas crié au Seigneur. Face à la menace de Naash, ce roi Ammonite qui voulait crever l'œil droit des habitants de Galad, le peuple avait voulu trouver leur sécurité ailleurs. Ils avaient demandé un roi. Il a fallu quelque chose de plus tangible que Dieu. Un homme fort, un homme qui pouvait faire taire leurs ennemis. Samuel leur rappelle qu'en agissant de la sorte, ils avaient détrôné le vrai roi. Ils avaient piétiné la couronne divine. Ils l'avaient tenu en piètre estime. Je pense que le défi est semblable pour nous aussi, hein. Est-ce que nous allons faire confiance à Dieu aujourd'hui? Nous pouvons passer en revue la fidélité de Dieu, tout ce qu'il a fait pour nous. D'abord en Christ, nous n'étions pas un peuple, mais en Jésus, on est devenu le peuple choisi et précieux de Dieu. Mais nous pouvons passer en revue tout ce que le Seigneur a fait pour cette église locale, ici à la Garenne. Au fil des deux dernières années, il nous a aidés à surmonter pas mal de difficultés, de problèmes, parfois des maladies pour certains. Il nous a pourvu avec un local. Il nous a donné des partenaires dans le travail, des gens qui prient pour nous, des églises partenaires. Mais que ferons-nous lorsque le prochain Naash se lève pour nous crever l'œil droit? Ferons-nous confiance à Dieu? Ou chercherons-nous nos propres moyens? Mettrons-nous notre confiance ailleurs? Samuel somme ce peuple à revenir à Dieu, à suivre Dieu, à revenir à cette alliance que Dieu avait liée avec ce peuple. Il y va de leur avenir, de leur bien-être, de leur sécurité dans le pays. Samuel est un avocat, un procureur brillant, certes, mais parfois la logique nous laisse un peu froid. Nous pouvons parfois être d'accord avec la personne qui démontre que nous avons tort. On peut se sentir pas très concerné parce que la personne dit « nous pouvons rester imperturbables dans ce cas-là ». On peut se dire « bon, même si cette personne a raison, je suis humain après tout, on ne va pas faire un drame, c'est pas grave, il y a des choses bien pires ». Mais Samuel sort des grands canons pour persuader ce peuple que le péché est sérieux. Cela n'indiffère pas à Dieu. Versets 16 et 17. Maintenant, tenez-vous debout et regardez cette grande chose que le Seigneur va faire sous vos yeux. N'est-ce pas la moisson des blés aujourd'hui? J'invoquerai le Seigneur, il fera retentir des coups de tonnerre et tomber la pluie. Ainsi vous verrez bien que vous avez très mal agi aux yeux du Seigneur en demandant un roi. Je pense que l'équivalent pour nous, ça serait si un jour tous les supermarchés de France, s'il y avait un incendie dans tous les supermarchés de France, Leclerc, Auchan, Monoprix, si en fait tous ces supermarchés étaient rayés de la carte du jour au lendemain. Je pense que ça nous ferait réfléchir. Oui, je dépends de Dieu. Je dépends de Dieu même pour mes plateaux de repas, pour tout ce dont j'ai besoin pour exister, pour survivre. Mon existence est vraiment entre ses mains. C'est lui qui est vraiment le roi de l'univers. C'est lui qui me donne la sécurité. Ce n'est pas ma famille, ce n'est pas mon argent, ce n'est pas l'État avec son armée, c'est lui. C'est lui et sa parole qui doit être ma joie et non pas mes biens matériels ou mes vacances. Je dois réaliser au fond que c'est lui qui me donne un avenir. Ce n'est pas les hommes politiques ou ce n'est pas mes études qui me donnent un avenir. C'est bien lui. On ne va pas invoquer le Seigneur ce matin pour qu'il détruise le supermarché. Donc, nous ne sommes pas Samuel. On ne peut pas se mettre à sa place de la même manière. Et aussi parce que Dieu nous a donné tant de signes dans sa parole, comme quoi il prend très au sérieux notre péché. Et le signe le plus grand, bien sûr, c'est la croix de son Fils, de Jésus-Christ. Notre péché ne lui indiffère pas. Il lui est si injurieux, si offensant, qu'il a envoyé son Fils unique pour s'en charger. Si nous allons prendre notre péché au sérieux, nous ne pouvons pas nous éloigner de cette croix. C'est cette croix qui crie haut et fort. Dieu ne prend pas à la légère votre attitude de cœur. Il ne prend pas à la légère vos révoltes quotidiennes. Alors sans surprise, le peuple eut une grande crainte. Il tremble, apeuré par ce qu'il voit. Il vient de prendre une raclée géante. C'est vrai que la peur, la crainte, c'est quelque chose qui nous motive. C'est une motivation un peu négative. Mais Dieu, parce qu'il est un Dieu d'amour, il nous fait peur. On ne le dit pas souvent, mais en fait, la parole est remplie d'exemples. Souvenez-vous de l'histoire d'Ananias et Saphira dans le livre des Actes des Apôtres. C'est un passage qui nous choque un peu. Dieu juge l'Église, et ça à l'époque du Nouveau Testament, notre époque. Quand l'apôtre Paul parle dans sa première lettre aux Corinthiens de la scène, il leur dit que le fait de prendre la scène indignement équivaut à manger, à boire un jugement. Ça fait peur. L'apôtre Pierre nous dit que Dieu purifie son Église par les souffrances. Dieu discipline ses enfants parce qu'il est un Père qui nous aime. Notre péché ne lui est pas indifférent. Il prend notre pureté, notre honnêteté, notre disposition de cœur très au sérieux. Mais la grâce de Dieu est encore plus grande. La réaction d'Israël est exemplaire. C'est vrai que ça fait plaisir de le dire parce que c'est un épisode pas très glorieux de son histoire. Mais ce peuple a enfin compris quelque chose. Le message de Samuel a touché au but. La crainte du Seigneur s'est emparée d'eux. Et comme les proverbes nous enseignent, lorsqu'on a la crainte du Seigneur, c'est le début de la sagesse, cette sagesse qui donne la vie. Le verset 19, c'est un peu le passage, le verset central de ce texte. C'est exactement ce que Samuel voulait entendre. Verset 19, « Tout le peuple dit à Samuel, « Prie le Seigneur, ton Dieu, pour nous tes serviteurs, afin que nous ne mourions pas. » Car nous avons ajouté à tous nos péchés celui de demander un roi. Tout à coup, le peuple est conscient de la sainteté de Dieu. Il n'ose pas s'approcher de Dieu comme ça. Il leur faut un intercesseur. Prie ton Dieu pour que nous ne mourions pas. La repentance implique l'humiliation. La repentance sincère reconnaît le naufrage que nos péchés occasionnent. La repentance véritable fait que nous nous inclinons devant celui qui nous avons blessé, Dieu lui-même. La repentance authentique reconnaît que Dieu serait juste de nous condamner, de nous juger. Alors comment Samuel réagit à cette requête? Il nous donne le baume qui vient de Dieu seul. Verset 20. N'ayez pas peur. C'est quelque chose, c'est une phrase qui revient assez souvent dans les Écritures. C'est ce que l'ange a dit à Joseph quand il avait parlé de Marie et Jésus. C'est ce que Jésus a dit au chef de la synagogue lorsqu'il a appris la mort de sa fille. N'ayez pas peur. C'est ce que Jésus a dit à ses disciples, apeurés lorsqu'il est venu vers eux sur le lac pendant la nuit. N'ayez pas peur, car la grâce de Dieu est plus grande que vos faiblesses, vos péchés, vos fautes, vos échecs. Certes, vous avez péché, vous avez très mal agi, mais la grâce de Dieu abonde. Ce n'est pas la peine de ressasser ce que vous avez fait, de passer des nuits blanches à vous dire « si seulement j'avais pas fait ça, si seulement je pouvais refaire ma vie, éviter cette erreur, éviter cette faute ». On est tous passés par des échecs. Israël vient de détrôner son Dieu. L'apôtre Pierre a nié 3 fois son maître. L'apôtre Paul a persécuté l'Église. Que faire? N'ayez pas peur. Saisissez la grâce. Comment? Revenez à lui. Revenez au vrai roi. La suite du verset 20 nous dit « Vous avez fait tout ce mal, mais ne vous écartez pas du Seigneur. Servez le Seigneur de tout votre cœur. Ne vous écartez pas de lui pour vous rallier à du néant qui n'apporte ni profit ni délivrance, parce que ce n'est que du néant. » Le néant, ce sont les idoles de notre cœur. Les choses dont nous dépendons au lieu de dépendre de Dieu seul. Les choses qui nous promettent la joie, la sécurité, le bonheur, l'avenir, mais qui n'ont pas la capacité de nous garantir quoi que ce soit. J'ai entendu une fois l'histoire de quelqu'un qui était debout dans un bus, il n'y avait plus de place pour s'asseoir. Et cette personne se trouvait à côté de quelqu'un qui revenait, qui avait fait ses courses. Et cette personne, cet autre passager, avait acheté un poteau, une perche. Et lorsque le bus commençait à freiner, instinctivement, cette personne a tendu sa main pour trouver un appui sur cette perche, pensant que c'était la barre d'appui qui faisait partie du bus. Je vous laisse le soin d'imaginer la suite. Mais les idoles de nos cœurs ressemblent à ces perches qui ne donnent aucun appui. C'est pour ça que Samuel a dit « Revenez au vrai roi ». Revenez à celui qui a envoyé son fils pour porter sur lui la lourdeur de vos fautes. Écartez ces faux appuis. Le verset 22 nous dit « Le Seigneur ne délaissera pas son peuple. À cause de son grand nom, le Seigneur a décidé de faire de vous son peuple. » C'est vrai que ça nous arrive de douter de l'amour de Dieu. Est-ce qu'il va me pardonner une énième fois ? Ne suis-je pas allé trop loin cette fois? N'ai-je pas exagéré? Certes, le péché est sérieux. Dieu ne le prend pas à la légère, mais il est fidèle. Il ne change pas d'avis comme ça. Dans sa bonté, il a fait de vous, il a fait de nous, ses enfants, les disciples de son fils. Il ne reviendra pas sur sa décision, sur son choix. Et on voit dans la suite du passage que dans sa bonté, il nous a donné un intercesseur qui est pour nous et qui n'abandonnera jamais. Verset 23, Samuel a dit « Jamais je ne pécherai contre le Seigneur en cessant de prier pour vous. Je vous enseignerai le chemin qui est bon et droit. » Et c'est un verset qui nous rappelle le ministère de Jésus, qui est notre intercesseur. Il est là à la droite du Père. L'apôtre Jean a dit dans sa lettre, donc on l'a vu il y a quelques mois maintenant, « Mes chers enfants, je vous écris ceci afin que vous ne péchiez pas. Si toutefois il arrivait à quelqu'un de commettre un péché, nous avons un défenseur, un avocat auprès de Dieu, Jésus-Christ le juste, car il a apaisé la colère de Dieu contre nous en s'offrant pour nos péchés, et pas seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. » Ne mettez pas Dieu à l'épreuve, revenez à lui. Il est fidèle pour nous pardonner. Dépendons de lui, de son pardon. de Jésus, notre intercesseur. Car, verset 25, c'est un peu le mot de la fin, c'est un mot un peu choc, en quelque sorte. Mais si vous faites du mal, si vous persistez à faire du mal, vous serez emportés, vous et votre roi. L'apôtre Paul le dit aussi de cette manière. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Je vous invite à la prière. Prions. Merci Père de ce que tu nous dis dans ce passage. Merci de ce que tu montres que le péché est quelque chose de sérieux. Père, tu l'as montré de manière très très claire à la croix, au calvaire. Seigneur, nous voulons te demander ce matin de nous aider à avoir ta perspective sur le péché. Bien souvent, nous le prenons à la légère. Aide-nous à voir qui est vraiment injurieux, il est vraiment offensant à toi. Je te prie, Seigneur, je te demande, Seigneur, de nous aider à revenir à toi, à saisir cette grâce, à écarter de nos vies les idoles de nos cœurs qui nous éloignent de toi. Aide-nous à dépendre de toi seul, de ton Fils, de son sacrifice. Merci de ce que tu es notre joie. Tu es notre sécurité, tu es notre bonheur, tu es notre avenir. Merci. Au nom de Jésus. Amen.